Il est 18h, vous écoutez Europe 1.
Ça fait très bizarre parce que c'est un département très reculé. Franchement, je me suis dit, on est loin, c'est un petit peu vers Paris là-bas. Et au final, ça me touche à nous bien plus qu'on ne le pensait, ouais.
À minuit, ils basculeront sous le régime du couvre-feu. 38 départements supplémentaires sont concernés, habitants des villes, habitants des champs. Personne ne pourra s'y soustraire.
Car l'épidémie atteint des seuils inquiétants. En Rhône-Alpes, les hôpitaux sont proches de la saturation. On transfère même les malades dans d'autres régions.
Nouveau conseil de défense consacré au terrorisme. Les réseaux sociaux sont dans le collimateur de l'exécutif.
Une semaine après l'attaque de Conflans-Sainte-Honorine, les imams de France rendent hommage au professeur Samuel Paty aujourd'hui.
Le droit à l'avortement pratiquement réduit à néant en Pologne. La justice déclare illégal l'IVG pour malformation du fœtus.
4 jours et 40 heures d'audition. Récit d'un face-à-face tendu entre Nicolas Sarkozy et ses juges dans l'affaire du supposé financement libyen de sa campagne électorale de 2007.
La bourse de Paris termine en hausse de 1,2% à 4 909 points.
Et la tendance météo, bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Attention aux fortes pluies ce soir.
Oui, nous avons un épisode très pluvieux. Là, de forts orages viennent de s'abattre sur la ville de Montpellier. Il a plu très fort. Et bien cette pluie, elle est en train de remonter. Elle va toucher l'est de la vallée du Rhône. Il pleut très fort jusqu'à un mois de pluie attendu en quelques heures. Je vais vous donner tous les détails de cet épisode à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après minuit, ce ne sera plus permis. Le couvre-feu entrera en vigueur dans 38 nouveaux départements. On pensait que le virus se concentrait dans les métropoles. Eh bien, il touche aussi des régions plus reculées. C'est le cas de l'Ariège et notamment de la commune de Saverdin. À minuit, ce sera donc extinction des feux. Des habitants qui ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive, Benjamin Péter.
Oui, parce que l'Ariège a été plutôt épargné jusqu'à présent, notamment ce printemps, et que désormais tous entendent parler autour d'eux de malades. Au Chiva, le centre hospitalier, 8 lits sur 12 de réanimation sont désormais occupés par des patients Covid. Et le taux d'incidence a dépassé les 270 dans le département. De quoi inquiéter Jonathan.
C'est tout nouveau pour nous, ouais. Ça fait très bizarre parce que c'est un département très reculé. Franchement, je me suis dit, on est loin, c'est un petit peu vers Paris là-bas. Et au final, ça me touche à nous bien plus qu'on ne le pensait. Ouais. Pourtant, on se lave les mains, on met le masque et tout, mais au final, ça ne suffit pas.
Alors lui a annulé sa soirée qui était prévue samedi. Au Bistrot des Arts, Sandra va également baisser le rideau pour les 6 prochaines semaines dès ce soir minuit. Mais elle s'attend à ce que ses clients aillent faire la fête dans le département voisin.
À 10 km de Saverdin, à Bellepêche, il n'y a pas de couvre-feu. Nous avons des jeunes qui auraient fréquenté ce bar avec des règles sanitaires précises, vont dès demain aller à Carcassonne faire la fête, à 40 dans un appartement ou à 30, parce qu'il n'y a pas de couvre-feu dans l'Aude. Pour moi, ça n'a pas de sens.
Et comme elle, beaucoup auraient trouvé plus cohérent un couvre-feu national, voire un reconfinement pour éviter ces comportements et se débarrasser définitivement du virus.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
La situation sanitaire qui menace de submerger les hôpitaux, c'est déjà le cas d'ailleurs en région Auvergne-Rhône-Alpes.
On va le voir dans un instant, mais il faut rappeler ce chiffre pour fixer les choses. 27 000 cas positifs ont été enregistrés en moyenne sur les 7 derniers jours. Et dans certaines régions, les hôpitaux sont effectivement débordés ou pas loin de l'être. La situation ressemble à celle de mars, dit Santé publique France. C'est effectivement le cas en Auvergne-Rhône-Alpes. 8 patients vont donc être transférés dans des zones moins touchées, comme à Bordeaux, Stéphane Place.
Oui, des transferts opérés en fait cet après-midi en avion sanitaire avec l'appui des SAMU de la Loire et du Rhône, puisque ces patients arrivent de Lyon, Saint-Étienne et Villeurbanne pour être soignés ici en Nouvelle-Aquitaine, au CHU de Poitiers, à l'hôpital de Brive et au CHU de Bordeaux, où le docteur Catherine Fleureau, anesthésiste réanimateur, préside la commission médicale d'établissement.
Ce sont des patients qui sont intubés, ventilés sur des respirateurs. On a encore un petit peu de marge de manœuvre sur Bordeaux, en tout cas sur le CHU de Bordeaux, parce que c'est vrai qu'on a été jusqu'à présent impacté, mais de façon bien moins importante que ça n'a pu l'être dans les autres CHU. Donc on a un peu de marge de manœuvre pour accepter ces patients. Pas énorme, bien évidemment, parce que comme sur tous les CHU de France actuellement, c'est la période des infections saisonnières, la grippe, mais pas que, et donc c'est dans une période assez compliquée, mais c'est vrai qu'on avait un peu de marge de manœuvre contrairement à certains autres CHU.
Alors, marge de manœuvre limitée aussi par les hospitalisations qui avaient été, souvenez-vous, décalées au printemps dernier, qui ne peuvent plus attendre désormais avec des interventions, des soins que le CHU, ici comme ailleurs, doit réaliser cet automne.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.
Europe 1, il est 18h04, c'est la suite de votre journal. Et ce nouveau conseil de défense à l'Élysée aujourd'hui, avec une confirmation, Christophe, l'exécutif va bien renforcer son projet de loi contre les séparatismes.
Oui, 2 heures de réunion à l'Élysée. On se demandait si l'attentat de vendredi dernier allait déboucher sur une nouvelle loi. Non. En revanche, Adrien Beck, le gouvernement veut renforcer, ajouter quelques dispositions à son projet de loi contre les séparatismes.
Oui, des mesures en fait directement inspirées de l'attentat contre Samuel Paty et surtout en fait des jours qui ont précédé cet attentat. Jean Castex annonce par exemple la pénalisation de ceux qui feront pression contre des fonctionnaires et agents publics, comme ça a été le cas de certains parents d'élèves du collège du Bois d'Aulne. Et puis la deuxième mesure annoncée par le Premier ministre, la voici.
La possibilité de sanctionner ceux qui mettent en ligne des informations personnelles mettant en danger la vie d'autrui, comme par exemple un professeur.
Voilà, alors pour l'instant, on le comprend, ces mesures sont encore un peu imprécises, encore en construction. On ne s'en cache d'ailleurs pas au sein du gouvernement, mais il va falloir aller vite puisque le texte doit être présenté en Conseil des ministres le 9 décembre. Le Conseil de défense, en tout cas ce matin, a fait office pendant 2h30 de lieu de débat de toutes ces propositions. Elles ont été challengées, me dit un conseiller. Pour preuve, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est même venu ce matin autour de la table avec son code pénal.
Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Une semaine, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, les musulmans de France ont choisi de faire de ce jour de prière un jour d'hommage.
Un peu partout en France, les imams ont répondu à l'appel du recteur de la mosquée de Paris. Il avait demandé aux imams de consacrer leur prêche à la dénonciation du terrorisme islamiste. Message qui est parvenu évidemment jusqu'à la mosquée de Montfermeil. Reportage Caroline Baudry.
Installés sur leur tapis de prière, 250 fidèles sont réunis pour le prêche comme chaque vendredi. Mais aujourd'hui, il y a ces mots de l'imam. Il condamne avec la plus grande fermeté l'assassinat du professeur vendredi dernier.
Aucune religion ne saurait accepter une action aussi abominable. L'islam se désavoue de ses fanatiques barbares et assassins.
Face à lui, l'Assemblée est très émue. Comme Karim, il est venu avec son fils et il tenait vraiment à exprimer sa peine aujourd'hui.
Les musulmans, nous sommes doublement meurtris. On perd une personne de notre famille. Cet acte-là a soi-disant été fait en notre nom. Je voudrais dire à la France entière et à tous ceux qui écoutent que nous y sommes pour rien, que nous regrettons cet acte. Nous sommes là en paix, l'islam veut dire paix. Et nous nous battrons et nous lutterons à vos côtés. Et ensemble, nous y arriverons.
Ici, les prêches se sont succédés dans l'après-midi avec, à chaque fois, ce message en hommage à Samuel Paty.
Le reportage pour Europe 1 de Caroline Baudry.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite du journal de Christophe Lamarre avec notamment ce retour sur un face-à-face qui visiblement a été très tendu lors de son audition entre Nicolas Sarkozy et ses juges.
Et puis la sortie d'un titre inédit de Daniel Balavoine, 34 ans après la disparition du chanteur.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Il est 18h09 et c'est la suite du journal de Christophe Lamarre avec deux semaines après son audition. On en sait un peu plus aujourd'hui sur ce qu'a dit Nicolas Sarkozy dans le bureau des juges d'instruction.
Oui, l'ancien président a été entendu dans le cadre de l'enquête sur le supposé financement libyen de sa campagne pour la présidentielle de 2007. On rappelle qu'il est mis 4 fois en examen dans ce dossier. La dernière audition lui a d'ailleurs valu une mise en examen pour association de malfaiteurs. Et le moins que l'on puisse dire, Gladys Laffitte, c'est que Nicolas Sarkozy s'est montré particulièrement agacé.
Oui, bien agacé pendant ces 40 heures d'audition pendant lesquelles l'ancien président s'est défendu ardemment, parfois exaspéré et souvent excédé. Comment puis-je prouver quelque chose que je n'ai pas fait? C'est à devenir fou, à se taper la tête contre les murs. Ce que les juges veulent savoir, c'est si Nicolas Sarkozy a délibérément laissé ses proches et leurs intermédiaires officieux tenter d'obtenir et même obtenir de l'argent libyen pour financer sa campagne, montant estimé à plusieurs millions d'euros. Vous n'avez ni les preuves de l'arrivée, ni les preuves de la sortie concernant l'argent. Où est l'argent alors ? Rétorque-t-il au magistrat. Au cœur de ce supposé pacte corruptif, les deux intermédiaires, Ziad Takieddine et Alexandre Djouri, en lien étroit avec Brice Hortefeux et Claude Guéant, lien dont Nicolas Sarkozy n'est pas informé, dit-il. Claude Guéant est-il crédule à ce point pour se faire rouler dans la farine pendant des années par Ziad Takieddine ? Demandent les juges. Réponse de l'ancien chef de l'État, il faut bien le croire, hélas. Selon lui, ce n'est donc pas parce que son ex-bras droit a fait des erreurs, a manqué de discernement, je cite, que cela fait de Nicolas Sarkozy un corrompu.
Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Il est 18h10 et c'est un coup de tonnerre qui vient de se produire en Pologne. Le pays a pratiquement dit non à l'avortement.
Même si dans les textes, la pratique de l'interruption volontaire de grossesse reste autorisée, dans les faits, c'est vrai, cela risque d'être bien différent. La justice polonaise estime que l'avortement pour malformation grave du fœtus est illégal. Or, Hélène Terzian, cela représente 98% des IVG.
Oui, désormais, il ne sera possible d'avorter que dans deux cas, en cas de viol, d'inceste, ou bien si la grossesse présente un risque pour la santé de la mère. En Pologne, lorsque les avortements étaient autorisés en cas de malformation du fœtus, les IVG légales étaient déjà extrêmement rares. L'an dernier, il n'y en a eu qu'un peu plus de 1000 recensés dans le pays. En revanche, le nombre d'avortements clandestins est lui très important. Près de 200 000 sont pratiqués chaque année. Une femme qui veut avorter le fera de toute façon, selon la directrice du planning familial en Pologne. Cette restriction met encore plus en danger les femmes, selon Christina Katspura.
Les conditions sanitaires dans lesquelles elles vont avorter dépendent de leur portefeuille. Si elles ont de l'argent, elles peuvent aller à l'étranger et avorter en sécurité. Mais sinon, elles le feront dans des conditions dangereuses. Et on a peur pour la santé et surtout pour la vie de ces femmes en Pologne.
Et dès hier, des groupes de femmes sont descendues dans la rue un peu partout dans le pays pour protester contre cette mesure. Certaines se sont fait arrêter. Dans une Pologne très catholique, les derniers sondages montraient qu'il n'y avait que 10% des habitants favorables à une nouvelle restriction du droit à l'avortement.
Merci Hélène Terzian.
Donald Trump annonce ce soir qu'il va retirer le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme.
Le président américain a informé le Congrès de sa volonté de revenir formellement sur la désignation du Soudan comme État parrain du terrorisme. C'est ce que fait savoir ce soir la Maison-Blanche, un geste qui intervient au moment où les spéculations se multiplient autour d'une possible normalisation des rapports entre les autorités soudanaises et israéliennes.
Et puis Christophe, on a tous encore ces tubes en tête. Il a disparu il y a 34 ans. Un titre inédit de Daniel Balavoine va sortir dans les bacs.
Oui, le chanteur est mort en 1986 dans un accident d'hélicoptère sur le Paris-Dakar. Le morceau s'appelle « J'étais devenu un homme », extrait.
Elle voulait que je sois un homme, toujours prêt au combat. Tiens tes bras, protège-toi, ne quitte pas. Sa garde baissera jusqu'à mort, ou c'est tout comme.
J'étais devenu un homme aurait dû faire partie de son deuxième album Les Aventures de Simon et Gunther, mais la chanson n'a pas été retenue, figurez-vous, et elle s'est un peu perdue après dans les tiroirs. Ce nouveau morceau annonce en fait la sortie d'un coffret de Daniel Balavoine le 4 décembre.
Daniel Balavoine dans le journal de Christophe Lamarre, que l'on retrouve à 18h30 pour le rappel des Tiers sur l'info.